Louer le Seigneur. Je crois que le temps du retour du Seigneur est très proche. Nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre. Et je prie et j'espère que le Seigneur va nous guider tout le chemin jusqu'au but. Que personne d'entre nous soit laissé derrière. C'est si important. Que nous rachetions tous le temps. Dans cette conférence, on ne va pas parler quelque chose de nouveau, mais comme Pierre l'a dit dans 2 Pierre, comme Pierre a dit que il va tous nous rappeler. Aussi longtemps qu'il est vivant, parler la même chose à nous, c'est pas un problème pour lui. Mais c'est bon pour tous les saints d'être, de redire les mêmes choses toujours, un nouvel mot, pas par rapport au même sujet, mais c'est un sujet de réalité, de la substance et la réalité. Nous connaissons tous beaucoup des écritures, mais de juste savoir, c'est pas suffisant. Je ne crois pas que d'écouter des messages une fois, ou bien même 10 fois, même 20 fois, c'est pas adéquat, parce que c'est pas un fait de savoir, c'est un fait de substance. Le Seigneur a dit, vous devez connaître la vérité vous rendra libre. La vérité, dans la parole de Dieu, spécialement dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'enseignement et la bonne doctrine de la parole de Dieu. Bien sûr, c'est aussi une part, ça fait aussi partie de cela. Mais souvenez-vous, le Seigneur a dit, je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas simplement la connaissance objective de la parole de Dieu. Mais la vérité est la personne vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la réalité de chaque parole. Et si nous savons, connaissons seulement la lettre, ça va pas nous donner la vie. Mais c'est la réalité de Christ, de toucher ce Christ vivant quand on touche l'esprit de la parole. Ensuite, ça devient la vie en nous. Et ça va nous rendre libres. Tant d'années, dans ma vie, dans les 15 dernières années, mon expérience, dans l'église, nous avons entendu tant de messages, tant de connaissances sur la parole de Dieu, mais je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont été affranchies. Affranchies sont encore liées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la connaissance qui va vous affranchir, mais c'est la substance et la réalité de ce merveilleux Christ, la personne de Christ en tant que notre vie, qui va nous affranchir. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous affranchit. Tu peux regarder toi-même avec ta propre expérience. Combien est-ce que nous connaissons de la parole de Dieu, de la Bible? On connaît tant. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vit ainsi? Toute la connaissance qu'on a accumulée, on aurait dû être libéré, affranchi, pleinement sanctifié. Pleinement mature. Mais ce n'est pas le cas. Je suis désolée de vous dire cela. Pas étonnant que Paul dise, La connaissance, elle l'amène qu'on est fier. Dans 1 Corinthiens 8, de juste avoir la connaissance ne fonctionne pas. J'ai entendu de tant de croyants, je sais, mais ça ne marche pas en moi. Alors ils ont abandonné. C'est parce que la vérité dans la Bible, la signification primaire de la vérité, la signification spirituelle pour nous, c'est le Christ vivant, c'est la personne vivante de Christ. Il est la substance et la réalité de chaque chose que Dieu, dont Dieu a parlé dans ce monde. L'arbre de vie dans Genèse. Chaque détail de cette merveilleuse réalité, tu peux les trouver dans les 5 premiers livres de Moïse. L'arbre de vie, l'eau de vie, l'image du Dieu vivant. Adam a été créé d'après l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est une vérité très, très belle. Toi et moi, on a été créés à l'image de Dieu. Mais à quoi est-ce que cette image ressemble? Quelle est la réalité de cela? Si je te demande, quelle est cette image? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Christ est l'image du Dieu invisible. Paul a dit cela dans Corinthiens. Paul a écrit cela à Colossiens. Lui, ce merveilleux Christ, est l'image du Dieu invisible. Le travail de Dieu en nous, parce que notre homme déchu, l'œuvre de Dieu, est de nous transformer, de nous rendre conformes et nous transformer à l'image de Christ. Parce que Christ est son image. Christ est la réalité. Christ est la réalité d'arbre de vie. Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Christ. Quelle est la rivière de l'eau de vie? C'est Christ en tant que l'esprit. Il est la réalité. Qu'en est-il de la manne qui est venue du ciel? C'est Christ. Le rocher, la pierre mentionnée de Moïse, qu'ils ont bu de cette pierre. Paul dit dans Corinthiens 10, cette pierre était Christ. Sans Christ, nous n'avons rien, et pas même la doctrine de Christ, mais la réalité, c'est la personne premièrement. Paul dit que pour lui, vivre, c'est Christ. Aujourd'hui, quand nous parlons du tabernacle, chose très importante, il y a 18 sensibles très importants qui sont mentionnés dans le livre de Moïse, dans les 5 premiers livres de Moïse. Tout au début, il y a l'arbre de vie. Bien sûr, il y a l'homme qui a été créé par Dieu. Et ensuite, il y a le jardin d'Éden. Et ensuite, il y a l'arbre de vie. Et il y a la rivière d'eau de vie. Et dans cette rivière, tout l'or, les perles et les pierres précieuses, elles sont mentionnées. Dans cette rivière qui coule. Toutes les choses là sont mentionnées. Merveilleux homme qui a été créé par Dieu. Et Dieu voulait que l'homme règne, domine. La royauté a déjà été mentionnée là. Ensuite, en commençant au chapitre 3, il y a le serpent. directement après la création de l'homme, au chapitre 3, immédiatement, l'ennemi a été exposé. Le vieux serpent était là, Satan. La Bible n'a pas attendu, perdu du temps pour nous dire la chose la plus importante qui se passe dans cet univers, c'est qu'il y a un ennemi. Beaucoup de fois, toi et moi, on n'est pas conscient du serpent. Tu penses qu'il est si loin de toi? Il n'est pas vraiment très loin. Il est là dans ta chair, dans la forme du péché qui demeure dans notre chair. Immédiatement au chapitre 3, le serpent apparaît. Dieu n'a pas perdu de temps pour l'exposer, mais Satan n'a pas non plus perdu du temps pour venir immédiatement. Il a tenté Ève, il a amené la chute de l'homme. C'est passé si vite. Pendant notre expérience est pendant les journées, combien de fois tu tombes? C'est un challenge. Tout a déjà été mentionné directement là. Mais ensuite, d'un autre côté, tu peux aussi voir, depuis le tout début, il y a Abel et il y a Caïn. Ou ces deux, ils existent aussi toujours aujourd'hui, oui. Le principe d'Abel. Mais depuis le début, Dieu nous a déjà montré les offrandes. Est-ce que vous pouvez vous représenter cela? Abel a offert à Dieu ce que Dieu a demandé, le premier-né des brebis. Dieu veut une telle offrande qui est Christ. Nous savons ça dans toute la Bible. Christ est ce premier-né. Voici l'agneau de Dieu. Il est le premier-né. Parmi tant de frères, il est le premier-né des morts. Abel a offert Christ directement au début. Nous pouvons voir la merveilleuse offrande qui est acceptée par Dieu, qui le satisfait. Les offrandes étaient déjà mentionnées là. Je ne comprends pas pourquoi tant de personnes sont contre les offrandes. Indirectement, tu peux voir le sacerdoce directement là. L'Holocauste et l'offrande pour le péché. L'Holocauste est montré là quand Dieu a fait ce manteau de la peau pour couvrir les hommes, pour couvrir Adam et Ève. Et directement, cette peau qui a couvert représente Christ comme notre justice, comme notre salut, les habits du salut. Tu peux réaliser directement depuis le début, tout a déjà été mentionné et Satan, l'œuvre de Satan a été exposée. Satan est un menteur. Où est ton frère? Oh, je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Directement, tu peux voir le menteur, le père du menteur qui œuvre là et meurtrier depuis le début. Et ensuite, tu peux voir ce qui appelle le nom de Jésus. Des personnes ont réalisé d'avoir se tourné vers Dieu. D'appeler le nom du Jésus, c'est pas seulement de crier depuis ta gorge. Parce que au temps de cette, ils ont réalisé que la mort est là, l'ennemi est là. Le serpent est là. Alors les hommes ont tourné leur cœur à Dieu, à Yahvé, au Dieu vivant. Et crier de notre cœur. Directement là, on peut voir l'homme au chapitre 4. Ils appellent le nom du Seigneur. Et ensuite, il y a Enoch, pas seulement appelé le nom de Jésus, mais c'est un homme qui marchait avec Dieu. Marchait avec Dieu. D'apprendre un jour, à vivre jour après jour. D'être sauvé, c'est merveilleux. Mais ensuite, nous avons besoin de se tourner à lui jour après jour. J'ai besoin de me tourner au Seigneur chaque jour. Combien facilement on est distrait. Seulement par quelqu'un qui dit quelque chose, on est déjà distrait par un appel, on est distrait. Par un événement, on est distrait. Nous sommes distraits par tant de choses. Pas seulement Abel et Adam, connaissant les offrandes, mais tout le temps de se tourner notre cœur vers le Seigneur et ensuite marcher avec Dieu. Toutes ces choses ont déjà été mentionnées. Est-ce que tu veux être enlevé? Apprends d'Enoch, parce que c'est le premier homme qui a été enlevé. Chacun a vu la mort. Adam est mort, Abel est mort, chacun est mort. Il y a tant d'années, ils ont vécu ces tant d'années, ils ont vécu, ils sont morts, ils ont vécu tant d'années, ils sont morts, il est mort, il est mort, et tout le monde est mort. Mais une personne n'est pas morte. Et qui était cette personne qui n'est pas morte? Enoch. Comment c'est possible qu'il ne soit pas mort? Parce que, par la foi, il marchait par la foi avec Dieu. Jour après jour. Il avait ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. De marcher avec Dieu jour après jour. Est-ce que nous faisons cela? Apprendre à faire chaque chose avec lui. Par lui. En lui. Et Paul a dit, d'un autre côté, il dit, pour moi vivre, c'est Christ. Et il a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est lui en Christ et Christ en lui. Et il marchait avec Dieu. Il a vécu Christ. Est-ce que tu veux être un prémisse? Être enlevé, de ne pas goûter la mort? Alors, là-dedans, dans Genèse, ça nous montre le chemin depuis le début. Enoch marchait avec Dieu 300 ans. Pas seulement 3 jours. Pas seulement 3 mois, pas seulement 3 années. 300 ans. Combien d'années est-ce que toi, tu as marché avec Dieu? Le frère là. Considérez votre vie. 24 heures par jour, on dort 8 heures, je sais pas si tu dors. Aussi, il y a la communion avec Dieu, je pense pas ainsi. On peut enlever alors 8 heures. De manger, 3 heures. Il y a déjà 11 heures. 11 à 12 heures. Et ensuite, reposer, ensuite faire la pause café. Et ensuite, travailler tant d'heures. 24 heures en un jour. Combien d'heures est-ce que tu marches avec Dieu? Même quand tu es à la maison, en confinement, tu essaies de trouver tant d'activités à faire. N'est-ce pas? Les hommes sont devenus fous d'être confinés pendant 2 mois dans leur maison. Qu'est-ce que tu fais en étant confiné? Passer du temps avec le Seigneur? Marcher avec Dieu? Ou de te disputer avec ta femme? Marcher avec Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. D'un autre côté, on voit l'homme descend jusqu'au temps de Noé. Génération descend et collaborer avec des esprits méchants, avec Satan. Le temps de Noé, on peut voir les fils de Dieu dont il parlait, les anges déchus, sont venus parmi les hommes. La terre était pleine de violence, d'injustice. Tout ça a rempli la terre comme exactement aujourd'hui, comme aujourd'hui. Mais Noé, il était juste, agréable à Dieu, il marchait avec Dieu et il bâtit l'arche. Ensuite, le jugement qui est venu, c'était la fin de ce temps. Ça nous montre que le jour du jugement vient. Même pendant le temps de Noé, le Seigneur nous a déjà avertis. Le jugement vient. Le Seigneur dit, quand il revient, ça sera identique au jour de Noé. Est-ce que la situation actuelle aujourd'hui n'est pas identique au jour de Noé? Tout est là, dans les livres de Moïse. Et ensuite, après le temps de Noé, à nouveau, l'homme est déchu. Et on va, Genèse 8, 9. Qu'est-ce qui s'est passé? À nouveau, Babylone était là. La tour de Babel. Il y a de la rébellion. Les hommes se sont rebellés contre Dieu. Nimrod, ça signifie la rébellion. Aujourd'hui, il y a tant de rébellion contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait avec ces personnes qui se rebellent contre lui? Même ici en Amérique, les hommes essayent de jeter Dieu, de se rebeller contre Dieu. En Chine, qu'est-ce qui se passe là? Pas seulement, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils haïssent Dieu. Ils se rebellent contre Dieu. Et ils construisent la tour de Babel. On peut voir. C'est terrible. C'est une bonne chose que Dieu a promis de faire l'alliance avec Noé, de ne plus détruire l'homme par le déluge. C'était la première alliance faite avec Dieu, avec Noé. Qu'est-ce que Dieu fait? Il n'a pas envoyé un nouveau déluge. Parce que sinon, il n'y aurait plus d'humains sur la terre. Peut-être Abraham à ce temps ne connaissait même pas Dieu. Alors, l'évangile a été annoncé à Abraham. L'évangile était déjà annoncé avant que le Seigneur est venu. C'est ce que Paul écrit dans Galates. On peut vraiment voir que toute chose a déjà été mentionnée là. Abraham, le père de la foi qui a été appelé à sortir. Et Dieu lui a donné une promesse. Quelle était sa promesse? Le bon pays. Louez le Seigneur. Et ce bon pays, Paul a dit très clairement dans Colossiens 1, au chapitre 2, pardon. Quand vous avez reçu Christ, Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Christ est un bon pays. Paul a parlé des riches insondables de Christ. C'est un pays plein de lait et de miel, plein de blé, plein de différentes huiles. D'or, l'or est aussi là. Il y a tant de choses. Les richesses du bon pays. C'est un merveilleux pays, un pays riche. Et ça, c'est l'image de notre héritage aujourd'hui. Nous héritons ce merveilleux bon pays qui est Christ. Christ est notre héritage. C'est merveilleux. Christ. Christ est notre bon pays. C'est merveilleux. Il a déjà été mentionné, là. Et Abraham, dans Hébreux 11, regardait une merveilleuse ville, pas une ville terrestre mais céleste, bâtie par Dieu, dont l'architecte est le constructeur, la ville de Dieu, la ville céleste, Nimrod, a construit une ville terrestre de Babylone, Dieu d'Ur en Chaldée. Ils ont bâti la tour de Babel, c'est terrible. Ils se sont rebellés contre Dieu, mais Abraham regardait une ville qui est bâtie par Dieu, désignée par Dieu. Est-ce que vous recherchez cette ville? Pas seulement rechercher, mais je pose une meilleure question. Est-ce que vous êtes cette ville? Est-ce que nous sommes cette ville? Est-ce que nous sommes dans cette création, dans cet édifice? Hébreux, chapitre 12, dit « Nous sommes approchés de la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, la ville du Dieu vivant. » Ça, c'est ce qu'Abraham recherchait. Je ne sais pas d'où est-ce que l'écrivain de Hébreu savait qu'Abraham recherchait cette ville. Mais est-ce que vous recherchez cette ville? Tout était là. Toutes les choses importantes sont là. Et ensuite, par Abraham, Isaac et Jacob, Dieu voulait avoir une nation. La nation d'Israël sur cette terre. Ils voulaient un royaume, une nation Israël. Aujourd'hui, nous sommes l'Israël céleste. Nous sommes les vrais juifs déjà à ce temps. Dans Genèse, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une grande nation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes cette nation sainte? Dieu voulait avoir un royaume, quoi comme royaume? Un royaume de sacrificateurs. Nous connaissons tout cela dans Exode 19. Dieu a dit, si tu suis et gardes mes commandements, alors tu seras pour moi un peuple particulier, précieux, une nation sainte. et un royaume de sacrificateurs. Dieu nous a déjà montré dans Exode que nous devons sortir de l'Égypte. Pas seulement il y a cette ville de Babylone, mais il y a la ville d'Égypte. Et de la même manière, il y a une autre ville, aussi Sodome et Gomorre. Dans la Bible, il y a trois villes terribles dont nous avons besoin de connaître et de ne pas être là. Ne sois pas en Égypte, tu dois en sortir. Ne sois pas à Babylone. Ne sois pas comme les Juifs. L'Israël terrestre à ce temps. Spécialement Judas et Benjamin, ils ont été mis en captivité. Est-ce que tu es en captivité aujourd'hui? La captivité de l'Égypte, la captivité de Babylone, du roi Nebuchadnezzar? Où qu'en est-il? Est-ce que tu es une ville plus terrible? Je sais pas laquelle c'est la plus terrible. Sodome et Gomorre. La ville du péché et de l'immoralité. C'est terrible. Regarde la situation aujourd'hui. Les mariages gays. Ces trois villes, elles sont déjà mentionnées là en tant qu'avertissement pour nous. Où est-ce que tu es? Est-ce que nous sommes une nation sainte séparée de toutes ces trois villes? Toutes les choses sont mentionnées là. En fait, il y a seulement besoin des 5 livres de Moïse, c'est bien assez pour nous. Ne sois pas comme Lot qui a fini dans la mauvaise ville. Abraham voulait la ville céleste et Lot, elle est dans la mauvaise ville. Le peuple de Dieu. On sont devenus esclaves de Pharaon en Égypte. Et après qu'ils sont entrés dans le bon pays, à nouveau, ils sont tombés et Dieu les a amenés en captivité à Babylone. Alors, il y a ces trois villes qui sont là. Est-ce que tu veux être dans une de ces trois villes? Non? Nous voulons être à Sion, louer le Seigneur. Le Seigneur a dit, tu seras pour moi un royaume de sacrificateurs, sacerdoce. Et un livre entier, le Pentateuque, qu'il est pour les sacerdoces, c'est pour ça qu'il est appelé Lévite. Pour les Lévites, c'est pas Danicus, c'est appelé Lévitique, parce que c'est pour la tribu de Lévi, la tribu sacerdotale, et ça commence avec les offrandes. Ça commence, et ensuite tu continues le livre avec les habits, sacrificateur et la consécration d'Aaron et de ses fils, les sacrificateurs. Une merveilleuse consécration. Ils doivent apprendre comment est-ce qu'ils peuvent faire le sacerdoce et ensuite toutes ces lois d'après pour le peuple de Dieu. Je ne sais pas si tu aimes Lévitique ou pas. Dans Lévitique, ce qui est mis en avant, c'est la sainteté. Fais ci, fais cela, fais ci, fais cela, parce que je suis ton Dieu et je suis un Dieu saint. Sois saint, car je suis saint. Dieu veut une nation sainte. Bien sûr, si Dieu aimerait une nation sainte, le sacerdoce doit être saint. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne ce fardeau de rechercher la sanctification. Parce que sans la sanctification, comment est-ce que nous pouvons exercer le sacerdoce? C'est impossible. Mentionné encore et encore, il n'y a pas autant de choses ou des personnes qu'un sacrificateur profane. Si tu es un sacrificateur profane, tu n'es pas un sacrificateur. Même les habits que les sacrificateurs portent doivent être saints et même très saints. Et la sanctification, la consécration du sacerdoce, elle est vraiment particulière. C'est vraiment spécial. Mais ensuite, une chose qui est encore plus nécessaire, plus signifiante et très importante. Bien sûr, nous avons mentionné les fêtes, les offrandes, qui sont la substance principale du livre de Moïse. Mais une chose qui est encore plus spéciale, c'est l'édification du tabernacle. Parce que sans ce tabernacle, où est-ce que les sacrificateurs vont servir Dieu? Et sans ce tabernacle, comment est-ce que Dieu peut parler à son peuple? Parce que dans Lévitique, Dieu a dit « Là, je te parlerai. » Dieu n'a pas de lieu pour parler à son peuple, et son peuple, son sacerdoce n'a pas de lieu pour servir Dieu. L'édification du tabernacle est si importante. Et la raison principale pourquoi c'est si important, c'est parce que Dieu, c'est là qu'il habite. Le tabernacle, c'est son lieu d'habitation. Et dans le Nouveau Testament, l'Église est l'édifice de Dieu, bâti avec toutes ses pierres vivantes. Et vous êtes édifiés en Christ Jésus, en habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est dans Éphésiens 2, à la fin. Le tabernacle est si important dans tout le Nouveau Testament et le temple de Dieu. Le tabernacle dans le désert, c'est d'un sens temporaire, mais chaque détail sont là. Parce que si tu regardes le temple de Salomon, c'est beaucoup plus grand, une échelle beaucoup plus grande. Et c'est fait avec des pierres, quelque chose de plus solide. Toutes les choses sont plus larges, plus grandes. Les œuvres, l'autel des holocaustes est plus grand. Cette cuve est si grande. Il faut 12 taureaux pour porter cela. Et il y en a 5 qui sont mis sur chaque côté. Et on peut voir comment c'est élargi. Mais tous les principes sont déjà montrés dans le tabernacle. Et le Seigneur a dit à Moïse, il n'a pas seulement dit à Moïse, il l'a même averti, même 2 fois dans le Pentateuque. Regarde, prends garde de faire tout d'après le modèle que je t'ai montré quand tu es sur le mont Sinaï. Le Seigneur lui a montré le modèle céleste, hébreu, dit aussi cela, il répète, parce que l'habitation de Dieu doit être d'après son modèle céleste. Mais comment est-ce que nous bâtissons l'Église aujourd'hui? Le Vatican, c'est construit d'après les modèles des ténèbres, de l'abîme. Ça, c'est le lieu où l'ennemi est adoré. Quand je dis ça, ce n'est pas trop dit. Le tabernacle, l'édification de ce tabernacle doit être d'après le modèle céleste, Moïse n'était pas capable de faire quelque chose d'après son imagination. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de l'église? Tu dis, je n'aime pas ça. Je crois que ça doit être fait d'après ce modèle. Et après, le frère dit, non, je suis pas d'accord avec toi. Je n'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Et ensuite, c'est terrible s'il y a 20, ça, il y a 20 000 opinions. S'il y a 1 000 saints, alors il y aura 100 000 opinions. Comment est-ce que tu vas bâtir l'église? Pas d'opinion? J'aime pas cela, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ce message, j'aime pas ce frère. J'aime pas comme les chaises sont arrangées. Il y a tant de choses que t'aimes pas, mais personne ne demande. Mais qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? Qu'est-ce qu'il aime? Souviens-toi, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, les saints doivent savoir comment se conduire dans la maison du Dieu vivant. Colonne et la vérité, c'est Dieu qui est manifesté en chair. Mais aujourd'hui, l'édification, c'est d'après les chemins des hommes, ce que j'aime, ce que les personnes aiment. Moïse, dans Hébreux 2, est considéré comme quelqu'un qui était la personne la plus fidèle dans tous les aspects de la maison de Dieu. Mais il est un type de Christ. Le vrai fidèle est Christ qui a fait d'après tout d'après ce que le Père voulait. Mais nous, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Peut-être que tu es différent. Peut-être que tu n'aimes pas Moïse, mais je dois me repentir si souvent, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui est dans ton cœur. Parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'on va continuer d'aller de l'avant? Toutes ces choses sont déjà là dans le Pentateuque. Et ensuite, en sortant d'Égypte, ils ont passé par la mer Rouge, qui est une image du baptême. Sans cette image de traverser la mer Rouge, nous ne saurons pas tant ce qui s'est passé après le baptême. Qu'est-ce qui se passe pendant le baptême? Qui a été enterré là? Pourquoi est-ce que tu as besoin de passer la mer Rouge? Les hommes ne pensent, ils pensent que le baptême c'est un rituel. Il y a un nuage et l'eau. Ils sont passés par les deux. Ils ont été baptisés par Moïse. Je savais pas ça. Comment est-ce que Paul a su que toute la nation d'Israël, les Israélites, quand c'est sorti d'Égypte, ils ont été baptisés par Moïse? Ah, j'ai vu Moïse. Comment Paul a su qu'ils avaient été baptisés en Moïse? Bien. Il a eu la révélation. Dans le baptême, c'est pas simplement de l'eau. Il y a aussi le nuage. Est-ce que tu as le nuage? Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous, quand nous baptisons, personne n'en fait attention à l'eau, mais on regarde pas au nuage. Mais ils sont passés par le nuage et par l'eau, parce que le baptême, sans l'esprit, tu peux simplement aller nager. Pas étonnant que dans 1 Corinthiens 12, Paul a dit, par un esprit, Ils ont tous été baptisés en un corps qui est le corps de Christ par un esprit. Et maintenant, ils ont été baptisés par l'eau. Parce que l'eau, c'est la seule substance par laquelle tu peux entrer, cette merveilleuse image, d'entrer en Christ et ensuite de revêtir Christ. Galates 3 dit, il y a tant de merveilleux aspects du baptême et ensuite l'arche de Noé, c'est aussi une image du baptême. Comme Pierre a dit, il y a tant d'aspects là dans les livres de Moïse. Nous avons besoin de creuser pour avoir une compréhension complète. Personne dit c'est l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas l'Ancien Testament. L'Alliance, c'est une chose, mais l'Écriture, c'est une autre chose. Maintenant, nous parlons de l'édification de ce merveilleux tabernacle. Ce merveilleux, impressionnant tabernacle, c'est une image de nous. L'édification de l'Église aujourd'hui. L'Église, l'habitation de Dieu. Où est-ce que Dieu va habiter? Est-ce que tu penses qu'il va habiter dans une cathédrale? Non, c'est en toi, en moi. C'est pour ça que nous, dans un sens, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 6, aussi au chapitre 3, dans 2 Corinthiens 6 et 7, nous sommes le temple de Dieu. Et Éphésiens, chapitre 2, nous sommes édifiés ensemble. Une habitation de Dieu et un tabernacle de Dieu dans notre esprit, dans tout notre être. Individuellement, tu es un temple de Dieu. Pour ce que Paul dit, est-ce que tu ne sais pas, savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et quand Jésus-Christ est venu, l'évangile de Jean, chapitre 1, il est dit, la parole est devenue chair, et la tabernacle, il a habité parmi nous. Jésus était le tabernacle vivant. Marchant, se déplaçant. Dieu était en lui. Partout où il allait. Il était en Dieu et Dieu était en lui. Vous savez, chers saints, en réalité, vous êtes l'habitation de Dieu. Mais Dieu est aussi ton habitation. Paul a dit, votre vie, ma vie, notre vie est cachée. Où ça? Avec Christ? Dans la cathédrale, dans la salle de réunion. Non? En Dieu. Moïse a bâti le tabernacle pour Dieu. Mais dans le psaume 90, il dit, ô Dieu, tu es notre habitation de génération en génération. D'un côté, nous sommes son habitation. D'un autre côté, il est notre habitation. Le Seigneur a dit à ses disciples dans Jean 14, en ce jour, vous saurez que le Père est en moi et je suis en vous et vous êtes en moi. Alors, où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu es? Et où est Dieu? Où est-ce que nous sommes? C'est un mystère. Est-ce que c'est pas mystérieux? Cette habitation est même merveilleuse. Je pense que c'est plus simple pour Moïse d'habiter et de bâtir ce tabernacle que pour Dieu de bâtir son habitation, la réalité de ce tabernacle avec nous aujourd'hui. Je n'ai pas vu que c'est écrit que la moitié de ces poteaux sont partis dans le désert. Est-ce que vous avez vu cela? La moitié des poteaux du côté nord, ils ont disparu, ils sont partis. Et les poteaux sud sont tombés. Est-ce que tu as lu cela? Mais laisse-moi te demander dans le Nouveau Testament, dans l'Église du Nouveau Testament, combien est-ce qu'ils sont partis? Quelques-uns. Vraiment? Seulement quelques-uns? Tu ne sais pas comment compter. Ou tu comptes faussement? Je demandais à un mathématicien de compter. On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. À la fin, ils sont tous arrivés à Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé aux sept églises? Est-ce qu'elles sont toutes obéissantes à la parole de Dieu? Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Non, nous ne sommes pas. Toi et moi, nous aimons faire nos propres choses. Et nous ne respectons pas la parole de Dieu, nous ne bâtissons pas d'après la parole de Dieu. C'est plus difficile, c'est plus facile de bâtir ce tabernacle dans le désert. Une image sortant d'Égypte, mais ne pas entrer dans le bon pays. Est-ce que tu peux t'imaginer cela? Toute la génération qui est sortie d'Égypte, elle n'a pas parvenu à entrer dans le bon pays. Ils n'ont pas atteint le but. Ils sont sauvés, sortis d'Égypte, mais ils n'entrent pas en Canaan. Regarde aussi les 10 vierges, elles sont toutes vierges. Mais seulement 5, les sages, entrent dans le festin. Les autres 5 l'ont manqué. L'image est très claire. Nous sommes dans un voyage et on court cette course et on combat là. Combat. Quand ils ont voyagé, ils ont fait tous ces combats en combattant l'ennemi. Aujourd'hui, nous combattons pas contre la chair, mais on combat contre des géants dans les lieux célestes. La puissance des ténèbres, le prince de ce siècle. Est-ce que tu combats ce combat? Est-ce que nous combattons ce combat? Pourquoi est-ce que je partage cela? J'aimerais que vous réalisiez ce que nous touchons aujourd'hui. C'est très important. Ça nous a déjà été révélé dans le livre de Moïse, Pentateuch, les 5 livres de Moïse de Genèse jusqu'à Deutéronome. Toute l'image était là. Si tu vois toute l'image, tu vas remarquer, Seigneur, nous voulons atteindre le but et c'est pas facile. À cause de l'ennemi. À cause de l'ennemi de Dieu. Nous bâtissons, Satan est aussi en train de bâtir. Nous devons être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, mais ensuite, sans ce tabernacle, comment Dieu va vraiment être avec nous? Le désir de Dieu est le tabernacle parmi nous, pour ça que l'édification de Sion aujourd'hui, de son royaume, c'est pas simplement une habitation, c'est pas simplement un petit tabernacle, mais ça doit être une nation. Tabernacle, jusqu'une nation, jusqu'un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte pour régner sur toute la terre. C'est pour ça, lors du retour de Jésus-Christ, il vient établir son royaume pour régner sur les nations. Et nous devons être des courrois et des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est difficile, c'est la base. Tous les principes de l'édifice de Dieu, nous pouvons vous les voir dans ce merveilleux tabernacle. Et vous et moi devons être ce tabernacle, cette réalité du tabernacle. Les poteaux ne disent pas, les poteaux sont Christ. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de l'église à Jérusalem? Jean, Jacques et Pierre étaient des poteaux. Même si dans le temple, il y a deux poteaux. Jarin et Boaz. Deux poteaux solides, forts. La force et la stabilité, ces deux poteaux. C'est ce que signifie leur nom. Sinon, quand le vent souffle, il est seulement un bâton, tu vas tomber. Si tu n'es pas enraciné et bâti en Christ, tu vas tomber. Seulement par le vent, quand le déluge vient, avec la pluie. Si nous ne sommes pas enracinés et bâtis en Christ, fortifiés dans l'homme intérieur, avec la force du Saint-Esprit en nous, comment est-ce que tu peux être un poteau? Tu seras des baguettes. Personne n'appelle des baguettes Boaz et Jacquine. C'est fait en bambou, fait de bois. C'est même pas du bois d'acacia. Toutes ces choses, le fin lin, tout ce dont les frères vont parler, le fardeau principal est, ce n'est pas une doctrine. Nous sommes aujourd'hui pour la substance. Substance, c'est la réalité de ces choses. Il n'y a plus de temps à perdre. Allez, pour la substance, nous avons besoin de la réalité, on a besoin de l'image de ce modèle, mais ce modèle doit devenir notre réalité. Parce que nous sommes des matériaux. Ensuite, tu dois gagner Christ pour être transformé, pour être changé à son image, conformé à son image, mature dans la vie, rempli du Saint-Esprit, rempli de la vérité, lavé. Le Christ règne en nous, pour besoin de gagner plus d'or. Nous sommes part de cela. Nous sommes part de cela. Si simplement c'est Christ, oui, bien sûr c'est Christ. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Que le Seigneur nous soit miséricordieux. Amen. Que nous bâtissions d'après le modèle qui nous est montré, qui était montré à Moïse par Dieu. Il a vu ce merveilleux modèle. Louez le Seigneur.